Chapitre 7. Mademoiselle Cyprienne et Mademoiselle Brindeboulot. Et pourtant non, Brindeboulot n'était pas bête, ou plutôt, elle l'était à sa manière, ce qui est une façon d'avoir de l'esprit. Un matin, dans l'atelier où Fabien étudiait, on avait vu entrer une assez jolie fille, mais si frêle et si blanche, et tout ébouriffée de cheveux blonds, qui venait se proposer pour modèle. Mademoiselle pose les boulots, demanda un rapin facétieux.
« Je n'ai jamais essayé. Quoi que ça, je les poserai bien tout de même. »
L'atelier éclata de rire. « Ici, mademoiselle, on ne peint que la figure. Mais allez chez M. Corot, il cherche des boulots pour son tableau du salon. »«
Vous dites, M. Corot ?»
Et la jolie fille s'en alla chez M. Corot, à qui, gravement, elle raconta son histoire. Chose qui n'étonnera personne, le bon peintre la reçut à merveille, ce babil d'oiseau l'amusait, et tout le temps qu'elle voulut, il permit à Suzette de venir flâner dans son atelier deux ou trois fois par semaine, payant les séances et lui laissant croire qu'elle posait. Cela l'avait rendue très fière.
« Que fais-tu maintenant, Suzette ?»«
Je pose les boulots chez Corot. »
D'où le surnom de Brindeboulot qui convenait on ne peut mieux à sa fine petite personne argentée et les cartes vraiment curieuses qu'elle s'était fait graver. Mademoiselle Suzette, dite Brindeboulot, pose l'ensemble et le paysage. Brave Brindeboulot, à part le vieux maître qui, parfois, entre deux tableaux, lui parlait sérieusement, jamais personne, y compris les cinq ou six rapins pour qui elle s'imaginait poser le paysage, et Fabien qui leur succéda, jamais personne au monde n'avait daigné lui faire part d'une idée juste. C'était une mode, au contraire, de bourrer son pauvre cerveau sans défense des notions les plus extravagantes. Et Brindeboulot acceptait tout avec confiance et sérénité. Aussi, devenue femme et presque grasse à 18 ans, on la devinait-elle, du moins, sous les vêtements accusateurs et mollement drapés qu'elle portait par coquetterie de modèle. Son corps tout entier semblait-il avoir embelli et fructifié aux dépens de sa tête, demeurée enfantinement petite dans une mousse de cheveux fous. Mais on aimait ainsi Brindeboulot, et Brindeboulot s'aimait ainsi.
« Je suis bête, et puis après, » disait-elle.
Bien des lecteurs s'étonneront que Fabien ait pu si facilement oublier une aussi adorable personne. À cela, il faut répondre que Brindeboulot, nature affectueuse mais calme, ne prit jamais au tragique le fait très simple d'être oublié. D'ailleurs, notre héros est peintre. Et pour les peintres, si le cadre est quelque chose en peinture, il est presque tout en amour. Fabien avait aimé Brindeboulot à Paris. À Paris, et même dans ces coquets environs de Paris, où la musique de Mirliton répond à la voix du rossignol, où toujours le parfum des feuilles et de l'eau se marie au parfum des fritures prochaines, Brindeboulot faisait bien. Mais à l'île Saint-Honorat, près de la mer, en plein myrte, vêtu comme on sait, et marchant toujours dans un nuage de cigarettes, Brindeboulot jurait horriblement. De même pour Mademoiselle Cyprienne. Fabien, en l'aimant, aimait surtout Antibes. Sans Antibes, peut-être n'eût-il pas aimé Cyprienne, et sans la féerique apparition de Cyprienne sur la porte du Bigorneau, Antibes, peut-être, lui eût paru moins aimable. Était-ce l'amour, était-ce le soleil qui dorait d'un jour si clair le petit port, les deux tours et la ville? Et puis Fabien avait une manie singulière. Demeuré ingénu malgré sa folle existence, toute petite villa vue du chemin de fer, tout contrevent vert mi-fermé, toute porte discrètement bourgeoise le faisait rêver d'amour paisible et de facile bonheur. Déjà, une fois, passant par Antibes, il s'était dit « Joli endroit, je dois être amoureux de quelqu'un que je ne connais pas et qui habite là-dedans. » Ce quelqu'un se trouva justement être Mademoiselle Cyprienne. Chapitre 8. Peinture murale. Fabien avait besoin d'un prétexte à ne pas quitter les Antibes. La peinture le lui offrit. Son naufrage, les aventures extraordinaires qu'il s'était données, celles plus ordinaires encore qu'on lui soupçonnait, avaient fait du peintre navigateur l'idole des capitaines. leur enthousiasme ne connut plus de bornes lorsqu'il proposa de décorer, à l'huile et gratis, de quelques sujets maritimes, l'intérieur du bigorneau. Le bigorneau était bien un peu noir, éclairé seulement par l'œil de chat des hublots, mais on y voyait la porte ouverte. Et puis, à force de chercher la Méditerranée bleue, Fabien avait découvert que le midi est blanc, que le ciel y est d'argent, les ombres même transparentes, ce qui lui permettrait, sans faillir à l'art, de faire ses décorations très claires et visibles encore au demi-jour. Fabien s'installa donc au bigorneau, fermé pour tout jusqu'à nouvel ordre. Au bigorneau, si près d'Antibes et plus près encore de la petite villa barbouillée d'ocre où souriait parfois à une fenêtre du rez-de-chaussée, dans les pompons odorants des cassiers, l'aimable cyprienne l'anse levée, et, le cœur plein d'amour, il se mit à l'œuvre, mais d'une telle ardeur que ses pinceaux et sa palette durent en être fort étonnés. Sur la paroi du fond, au milieu d'un encadrement fait de câbles enroulés, d'encre, de rames, de tridents, de porte-voix et de longue-vue, il peignit en 6 médaillons les portraits des 6 capitaines. L'anse levée, la main étendue dans l'attitude du commandement. Escragnol appuyé sur une langouste. Varangode souriant et doux. Arluc agité de sa perpétuelle tempête. Barbe perdue dans un rêve qui devait être peuplé d'oursins. Tous regardant la mer et peint de face, mais de trois quarts seulement l'aigre figure du peu sympathique Saint-Égousse. À droite et à gauche, dans 4 panneaux, Fabien, d'un pinceau que l'amour guidait, brossa ce que nous appellerons l'épopée du bigorneau et de la Cassagnore. D'abord, l'îlette déserte et nue, des rochers tranchants, sans verdure, que hantent seuls le poulpe et le crabe pélouse, un ciel bas, la lame blanchissante aux pointes, et calme, en silhouette sur l'horizon marin, les 6 capitaines réfléchissaient au destin de cette terre, par eux conquise. En face, la même îlette, mais joyeuse sous un ciel joyeux, l'îlette avec son port, son bigorneau, tel que l'avait fait le génie des 6 capitaines. Les 6 capitaines se félicitaient. Dans le lointain apparaissait Antibes, Antibes dont le bigorneau n'est que la miniature et qui, par une flatterie de la perspective, semblait lui-même être la miniature du bigorneau. Dans les 3e et 4e panneaux furent représentés à l'avance, mais on ne risquait rien à cela, les futures prouesses de la Cassagnore. En mer, pavillon au vent, couverte d'écume et fendant les flots en fureur sous l'irrésistible impulsion des 6 capitaines, tandis que les gabians, de leurs ailes blanches, rasent l'eau et que les navires voiliers effrayés rentrent au port à sec de toile, puis, amarrés dans une calanque, le repos après la tempête, avec 4 capitaines pêchant et 2 autres, Barbe et Arluc, en train de préparer la bouillabaisse. Restait la porte. Fabien l'entoura de poissons argentés et d'algues vertes. Mais au-dessus, dans le trumeau vide, qui peindre, sinon la joie du lieu, la bien-aimée de tous, l'adorable mademoiselle Cyprienne. Ce fut le plus charmant et le plus long aussi de l'ouvrage. Fabien avait fait le reste en quelques jours, ce seul portrait lui prit un aussi long temps que tout le reste. Que voulez-vous, il y avait une telle variété de tons sur cette peau transparente et brune, toujours prête à rougir, de tels jeux de lumière dans ses cheveux noirs dorés par places, tant de paillettes dans ses yeux bleus sombres et sur ses lèvres méridionales, tant de façons diverses de sourire, qu'il fallait bien choisir, comparer. La porte ouverte laissait voir la mer. Sous les courges en fleurs, le bon lancevelé fumait sa pipe, mademoiselle Cyprienne, tout en posant, brodée, Fabien peignait, 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 et les heures s'écoulaient délicieuses. Chapitre 9. Parfums et fleurs. Fabien et Cyprienne semblaient heureux, ébauchés avec le portrait, leur innocent roman d'amour, en même temps que lui, prenait figure. Choses et gens, tout souriait dans le bigorneau. Seul Saint-Égousse ne souriait pas. Saint-Égousse grommelait tout bas de ce qu'il appelait un tas de micmacs et faisait de plus en plus froid de mine. Simple nuage dans un ciel pur, mais sur les côtes qu'habitent nos héros, un nuage gros comme une orange apporte souvent le mistral. Ce Saint-Égousse, le petit Saint-Égousse, comme on disait entre amis, n'était pas précisément capitaine ou plutôt, s'il l'était, il devait l'être de naissance, n'ayant, au-dessus de personne, jamais servi. Seulement, il s'était fait, dès le collège, l'habitué fidèle du café, où la cité antiboise réunit chaque soir sa colonie de vieux guerriers. Bien reçu d'eux à cause de sa naïve admiration, il avait fini, vers 30 ans, par se croire vieux guerrier lui-même. On le laissa croire. Ravi de tant d'honneur, à 30 ans, il traînait la jambe. À 35, il avait la goutte. À 40, âge où le trouve ce récit, vous auriez pu l'entendre se plaindre d'anciennes blessures. Conduit par son étoile, Saint-Égout s'était trouvé là le jour où Lancelevé et 4 capitaines parlaient de fonder le cercle nautique. Un 6e manqué, Saint-Égout s'offrit, on l'accepta, et Saint-Égout fut depuis, dans Antibes, capitaine pour tout de bon. À part les campagnes qu'il n'avait pas faites et les blessures qu'il n'avait pas reçues, rien ne le distinguait des autres capitaines. Ses revenus eux-mêmes n'étaient pas des revenus et semblaient plutôt, grâce à leur fixité, une pension de retraite que le sol et le soleil antibois lui auraient payé tous les semestres. Saint-Égout n'était pas précisément rentier. Il n'exerçait aucune des paisibles industries que ses concitoyens exercent. Il n'avait pas de moulin à huile, il ne salait pas d'olives, il ne séchait pas de figues, il ne menuisait pas des cannes avec la palme des dattiers, il ne distillait pas la liqueur locale en macérant au soleil des baies de myrte dans de la vieille eau-de-vie, il ne combinait pas cette exquise saumure noire, le paysala, bouilli d'imperceptibles petits poissons triturés qui, jadis, sous le nom de garum, faisaient se pourlécher les babines romaines, il ne pressurait pas les tomates comme fabricants de jus de tomates, ni les étrangers comme propriétaires de villas. Saint-Égout, pour fortune, possédait au quartier de la Badine un tout petit clos précédé d'un tout petit pavillon. Dans le pavillon s'arrêtaient, du matin au soir, les passants, encouragés par une enseigne accueillante. Dans le clos, 110 orangers épanouissaient leurs fleurs au soleil et mûrissaient leurs fruits à la brise marine. Chaque jour, une vieille femme, armée d'une courge creuse taillée en longue cuillée, versait au pied de chaque oranger, avec une religion toute chinoise, l'humble mais féconde offrande laissée dans le pavillon par les passants de la veille. Et voyez les mystères du circulus. Le parfum des fleurs ne semblait que plus doux, la saveur des fruits plus exquise. Les 110 orangers, à 10 francs par pied et par an, rendaient, tant en fruits qu'en fleurs, 1100 francs, la vieille femme une fois payée. Et tandis que dans le nord, avec des lieux de forêt, un homme peut se trouver pauvre, Saint-Égout, avec ses 110 orangers et son pavillon, portait des souliers de toile en tout temps, des pantalons blancs et des vestes courtes, et se promenait de la ville au bigorneau, un parasol sous le bras, et coiffé d'un chapeau manille, baissé sur les yeux et relevé sur la nuque, ce qui, dans Antibes et tout le long du littoral, est l'apanage de la richesse. Saint-Égout, jusque-là, n'avait guère regardé Mademoiselle Cyprienne. Mais devinant Fabien amoureux d'elle, il s'était dit « Pourquoi lui et pas moi ?» Et son besoin d'aimer avait éclaté subitement comme un vieil obus qu'on dévisse. Aimait-il Cyprienne, l'homme du clos et du pavillon ? Non pas, il eût aimé de même toute autre femme. Mais il était jaloux de Fabien et cette jalousie sans motif allait le conduire jusqu'au crime. Voici comment. Chapitre 10. La bouée poste. À l'extrémité sud du continent américain se balance, dans l'agitation perpétuelle des flots, une bouée rendue célèbre par maints récits de voyage. Les navires y jettent leurs lettres en passant, d'autres navires les recueillent. C'est la bouée poste du Cap Horn, dépôt sacré gardé inviolablement par la solitude et la tempête. Lancelevé, ayant lu quelque part cette histoire de bouée poste, voulut que le bigorneau eût sa bouée poste lui aussi. Une courge vide, surmontée d'une boîte peinte en blanc, fit l'affaire. La courge et la boîte furent coulées sur ancre à quelques mètres en avant de l'îlette. Un câble amenait à terre l'appareil flottant et le facteur qui fait le service des villas du Cap avait l'obligeance, quand besoin était, de tirer le câble et de déposer dans la boîte les paquets ou les lettres adressées au bigorneau. Saint-Égout, dont c'était la charge, faisait régulièrement la levée. Mais, à part le samedi, jour des publications maritimes, lesquelles, pour peu que la mer fût gaie, arrivaient trempées d'eau de mer et maritimes d'autant plus, la bouée poste en général ne recelait guère que quelques débris apportés par l'eau, éponges arrachées des côtes de Sicile ou d'Afrique et revêtues encore de son enveloppe gélatineuse, brins de corail venus de Corse, pierres ponces rejetées par le Vésuve ou le Stromboli, et parfois aussi un petit crabe demeuré prisonnier après s'être témérairement glissé par le rictus en tirelire de la boîte. Un matin, cependant, à la prime aube, Saint-Égouste, en train de promener ses amours rentrés et ses fureurs jalouses, vit une voile qui, sortant de la brume, rasait l'îlette, stoppait un instant devant la bouée poste, puis, continuant sa bordée, allait disparaître au large dans les reflets du soleil levant. Si rapide qu'eût été l'apparition, Saint-Égouze avait reconnu le singe rouge. La boîte ouverte y trouva une lettre. La lettre était cachetée de rouge, timbrée de rouge à l'effigie du singe rouge et portait l'adresse de Fabien. Pareil à un presse-papier en bronze japonais, un crabe dormait au-dessus. Saint-Égouze captura le crabe, ce qui était son droit, mais il eut tort de violer la lettre. « Mon cher Fabien !» disait cette lettre, d'ailleurs fort mal orthographiée. « Mon cher Fabien, c'est des bêtises tout ça, et je sens bien que tu me trompes. Je pleure depuis ton départ. Cependant, je te suis fidèle, tes basses et miravailles me laissent seule tout le temps. Ils sont pirates, ils s'en vont écumer les flots, puis rapportent des provisions. Moi, j'ai toujours peur des gendarmes, mais ils me disent qu'il n'y a pas de gendarmes sur l'eau. Sans le mal de mer, je serais déjà allé arracher les yeux à ta mademoiselle Cyprienne et puis lui expliquer que tu fais le navigateur et que tu ne sais pas seulement ramer. Tu te rappelles, à Chennevièvre, quand nous avions un canot, c'était moi qui ramais toujours et toi, avec ton crayon, tu faisais celui qui cherche des motifs, à preuve que je me suis doublé les biceps et qu'il m'a fallu rester 6 mois sans poser parce que je manquais d'élégance. » Mais tout cela n'est pas une raison pour me traiter comme tu me traites. Je vais me venger. Méfie-toi. Brin de bouleau. » Dans cette lettre ingénue, comme une guêpe dans une fleur, s'en cachait une seconde, sévère et d'aspect officiel. Île Saint-Honorat, calanque des fenouilles. Les sous-signés, Trébaste et Mirval, pirates d'abord du singe rouge, s'étant, sur l'ordre de l'amiral Brin de Bouleau, constitués en cour martiale à l'effet de juger et condamner le sieur Fabien, peintre pirate déserteur, considérant que ledit Fabien s'est fait débarquer au bigorneau de l'Ilette sous prétexte que la Méditerranée doit être plus beau là-bas qu'ailleurs, mais en réalité pour lier commerce d'amitié avec des bourgeois anthropophages, considérant au surplus que 8 jours suffisaient à un peintre, même de talent médiocre, pour constater la qualité d'azur que peut tenir en suspension ladite mer, sommons ledit Fabien de se présenter dans les 24 heures au mouillage du singe rouge, à défaut de quoi il se verrait obligé de sévir, conformément aux lois et règlements librement consentis par lui et jurés entre les pattes du dit singe. On signait Miravaille Trébaste. Et plus bas, l'amiral Brin de Bouleau. Des pirates, je m'en étais toujours douté. Aussi indigéré de romans maritimes que pouvait l'être Brin de Bouleau, Saint-Égouze prit comme elle, très au sérieux, la mauvaise plaisanterie imaginée par Miravaille et Trébaste pour charmer leur exil à la calanque des fenouilles. Bien plus, espérant, grâce à son indiscrète découverte, perdre son rival à la fois dans l'esprit du père et dans le cœur de la fille, il communiqua à Lancelevé la pièce qui convainquit Fabien de piraterie et s'arrangea pour laisser tomber adroitement la missive de Brin de Bouleau dans une petite anse où Mademoiselle Cyprienne avait coutume de venir tous les jours avant dîner chercher du bout de son ombrelle des brins de corail dans le sable. « Mille sabords !» s'écria Lancelevé d'un ton plus belliqueux qu'indigné à la lecture du firman des pirates. Quant à Mademoiselle Cyprienne, en trouvant la lettre de Brin de Bouleau, elle devint subitement aussi rouge que le cachet rouge de l'enveloppe, aussi rouge que le fragment de corail trouvé tout à l'heure, et qu'elle laissa tomber d'entre ses doigts. Chapitre 11. Un mariage au clair de lune. Cette double trahison précipita les événements, mais dans un sens tout opposé à ce qu'avait espéré l'astucieux Saint-Égousse. Loin d'en vouloir à Fabien d'être pirate, Lancelevé sentit son affection redoublée à l'endroit d'un jeune homme exerçant sur l'eau un métier devenu si rare. Toute la journée, il tourna autour de lui, désirant et n'osant interroger. Le soir, il fit un discours au capitaine. « Capitaine, grande nouvelle, il y a un pirate parmi nous. » À cet exorde prévu, les capitaines, moins Saint-Égousse, sourirent. Car Lancelevé, n'y pouvant tenir, avait déjà confié à chacun d'eux en particulier le secret qu'il venait leur raconter à tous ensemble. « Quoi ? Un pirate ? Un vrai pirate ? » s'écrièrent-ils néanmoins d'un ton de réprobation affectueuse. « Oui, capitaine, un vrai pirate qui écume la mer, qui ravage les côtes, qui cache sa voile barbaresque derrière les rochers des Calanques, comme au beau jour passé, hélas, où des Sarrasins, des Kabyles, tenaient garnison à Monaco. Mais que dis-je, un pirate ? Trois pirates, capitaine, nous connaissons trois pirates. Le Bigorneau, entrepont modeste, a reçu trois pirates dans ses murs, trois pirates probablement souillés de crimes. » Maintenant, il en abrite encore un qui vient chaque nuit, sur ce hamac, bercer ses rêves ensanglantés. Et nous ne rougirions pas ? Saint-Égousse croyait avoir réussi et rayonnait. Mais la suite du discours le détrompa. Nous ne rougirions pas ? Ah, rougissons, capitaine ! Nous ne rougirions pas de voir, depuis 2 ans, la Cassagnore moisir sur sa quille ? Nous ne rougirions pas de rester ici, immobiles et regardant la mer de loin, comme un tas de crabes à qui des gamins ont cassé les pattes, tandis que les courses se préparent et que la piraterie a l'œil sur nous. Nous sommes donc des marins pour rire, et quelle opinion doivent avoir de nous ces forbans ? Ainsi, capitaine, réunion demain. Pas de rhumatisme, pas de gouttes, pas de querelle. Que la Cassagnore, quand luira l'aube, reçoive le baptême d'eau salée, et, au soleil levé, tout le monde sur le pont. J'ai dit « Vive Lancelevé ! Vive les pirates !» Les capitaines trinquaient debout. L'enivrement était au comble, jamais pareil vent d'enthousiasme n'avait soufflé sur le Bigorneau. À minuit, on se sépara. « Fichu matelot tout de même !» murmura Lancelevé en voyant s'éloigner les capitaines. « Il serait bon de leur donner un grand exemple. » Alors Lancelevé coiffa un foulard, se roula dans une couverture, puis, s'exaltant à la vue du ciel, de la mer, il marcha vers la Cassagnore et s'écria d'une voix héroïque « Cette nuit, je veux coucher à mon bord !» Il y coucha. Cependant, à la même heure, Fabien, amoureux et confiant, rentrait de la ville. Mademoiselle Cyprienne quittait la maisonnette couleur d'ocre et se dirigeait vers le Bigorneau de l'Islette sous le prétexte d'aller chercher son père, mais avec le vague espoir de rencontrer Fabien. Et Saint-Égousse, ses collègues lâchés, revenaient sur ses pas pour espionner Fabien et Cyprienne. Décidément, rien ne réussissait à ce malheureux Saint-Égousse. Car si, d'un côté, Lancelevé n'était pas fâché d'avoir un forban pour hôte, de l'autre, mademoiselle sa fille se pardonnait presque d'être aimée d'un mauvais sujet. Les filles sont ainsi. D'abord, sa colère avait été grande contre mademoiselle Brin de Bouleau, qui se permettait de tutoyer M. Fabien. Puis, réfléchissant, elle se demanda comment pouvait bien être faite pareille demoiselle. Fine et brune, elle se l'imagina grassouillette et blonde. Telle, ou peu s'en faut qu'elle était, très jolie, sans doute, vu le bon goût de Fabien, et bientôt elle fut fière, mon Dieu, oui, de se savoir préférée à une aussi agréable personne. Était-elle vraiment préférée ? Il s'agissait de le savoir, et cela tout de suite, sans attendre au lendemain. Il s'agissait tout de suite d'accabler Fabien de reproches et de l'interroger à l'endroit de cette Brin de Bouleau qui avait un si drôle de nom et une si drôle d'orthographe. Raison sans doute insuffisante pour qu'une petite bourgeoise bien timide fît à son amoureux la surprise d'une rencontre de nuit. Mais le cœur de Cyprienne était si pur, et ses nuits de Provence sont si claires qu'un rendez-vous de nuit à Antibes devient innocent comme un rendez-vous de jour. « Monsieur, monsieur Fabien, j'aurais quelque chose à vous dire. » Fabien tressaillit, il n'osait pas croire à son bonheur. Pourtant, il prit Cyprienne par la main et tous deux, sans parler, allèrent s'asseoir sur le plat-bord du canot, au fond duquel l'an se levait, après avoir contemplé les étoiles, commençait à sommeiller. L'an se levait, qui, dans la vie de tous les jours, n'aurait pas versé le sang d'un moineau, était féroce à ce moment. Il se croyait pirate, il rêvait abordages et massacres, il se voyait habillé en turc, la hache à la main, avec le fidèle Fabien. Autour d'eux, la mer était rouge. Un léger bruit interrompit ce doux rêve. « Mille sabords ! » s'écria le capitaine. « Est-ce qu'on ne pourrait pas aller s'embrasser plus loin ?» Et se redressant sur son séant, il reconnut Cyprienne et Fabien. Un foulard indien enveloppait les cheveux gris du capitaine, et le foulard lui-même empruntait quelque chose de majestueux à la grandeur du paysage et à la gravité des circonstances. D'abord, l'an se levait, voulut maudire, en père classique. Mais, à moitié endormi encore, et très ennuyé de ce drame familial qui venait ainsi se jeter au travers de ses rêves nautiques, le brave homme ne trouva que la force d'ajouter « Malheureux, vous, un ami, vous, un pirate, avoir déshonoré ma fille !» Fabien protestait, Cyprienne lui mit sa main mignonne sur la bouche. Et le fait est qu'elle avait ainsi, toute troublée au clair de lune, l'air le plus gracieusement déshonoré du monde. « Après tout, c'est votre droit. Vous êtes pirate, je ne peux pas vous en vouloir, » reprit en soupirant l'infortuné père. « À votre place, je l'eusse peut-être enlevé. » Puis il ajouta, non sans noblesse, « Acceptez sa main, Fabien, je vous l'accorde, puisqu'il n'y a plus moyen de faire autrement. » Il y avait certes moyen encore de faire autrement, mais cette fois, ni Cyprienne ni Fabien ne protestèrent. « Je passe la nuit à mon bord. « Mustapha, non, Fabien, reconduisez votre fiancée, » ajouta le bonhomme que le sommeil reprenait. Il leur donna sa bénédiction et ses devoirs de père accomplis, il se recoucha dans son canot et dans son rêve. Blotti entre un aloès et un cactus de l'enceinte du Bigorneau, doublement poignardé dans son amour et dans sa chair, Saint-Égousse avait tout entendu.